Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 12 à 21 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى
لا يصلاها الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء
Certes, oui, à nous de guider. Certes, oui, et à nous l'au-delà et le présent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne tombera que le très malheureux, et celui-là même qui crie au mensonge et tourne le dos, alors quand sera écarté le pieux, celui-là même qui donne ses biens pour se purifier, sans que personne lui ait fait un bien dont ce soit la récompense, mais pour la seule recherche du visage de son Seigneur, le Très-Haut. Et certes, il va bientôt agréer. Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour amis auditeurs, ravi de vous retrouver en ce dimanche 13 février 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Ukraine, bientôt la guerre, autant Russie. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, la fin des pourparlers de Vienne en attente de la décision de Washington. L'Iran appelle ses citoyens en Ukraine à se préparer aux urgences. Et puis le ministre des Affaires étrangères malien qualifie l'Iran de modèle pour le progrès scientifique. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Les pourparlers sur la levée des sanctions à Vienne ont considérablement progressé grâce à la volonté et à l'initiative iranienne. Et de nombreux textes de l'accord final ont été rédigés avec des propositions pratiques de l'Iran. Mais atteindre la ligne d'arrivée et parvenir à un accord attend les décisions nécessaires des États-Unis. Selon un correspondant de l'IRNA sur place, toutes les délégations participant aux pourparlers ont eu des réunions intensives séparément avec les représentants de l'Iran et des États-Unis. Hier matin, Mikhail Ulyanov, le négociateur en chef russe, a rencontré Ali Boreri, son homologue iranien. Il a écrit sur sa page Twitter qu'il avait discuté des détails de la voie à suivre dans les pourparlers de Vienne. Le diplomate russe s'est ensuite rendu à l'hôtel Marriott pour rencontrer Robert Malley, l'envoyé spécial américain pour l'Iran, et une heure plus tard, il s'est rendu à l'hôtel Cobourg où se déroulaient les pourparlers. Dans l'après-midi, le diplomate russe a rencontré Henrik Mora, coordinateur des pourparlers et haut négociateur des trois pays européens. Le négociateur en chef de la Chine a également rencontré Robert Malley hier et après une réunion relativement longue, s'est rendu à l'hôtel Cobourg pour rencontrer Ali Boreri. Hier soir, des représentants de trois pays européens se sont rendus à l'hôtel Marriott pour rencontrer le représentant américain. Nous sommes tous d'accord sur le fait que nous avons atteint l'étape finale, surtout depuis que nos collègues iraniens ont présenté leur paquet de propositions finales, a déclaré le principal négociateur chinois à Vienne aux journalistes samedi 12 février avant d'entrer à l'hôtel Cobourg où se tiennent les pourparlers sur la levée des sanctions. Record des exportations de pétrole signe un échec de la pression maximale. Le porte-parole du gouvernement iranien Ali Bahodiri Jahromi a déclaré que le nouveau record des exportations de pétrole iranienne est un signe de l'échec de la pression maximale américaine. Dans un tweet samedi soir, Bahodiri Jahromi a souligné les nouvelles publiées par Reuters sur l'augmentation des exportations de pétrole iraniennes, signe de l'échec de la pression maximale sur le peuple iranien. La politique étrangère axée sur les résultats, sans s'appuyer sur Vienne et New York, a rendu les sanctions inefficaces et neutralisées, a-t-il ajouté. L'Iran appelle ses citoyens en Ukraine à se préparer aux urgences. L'ambassade de la République islamique d'Iran en Ukraine a déclaré dans un communiqué, suite aux préoccupations affichées par certains citoyens sur un éventuel déclenchement du conflit aux frontières orientales ukrainiennes, « Nous conseillons à nos compatriotes de se préparer à d'éventuelles situations urgentes ». Pour l'ambassade de la République islamique d'Iran, la santé et la sécurité des citoyens iraniens sont importantes et il a fait de cette question une priorité dans ses fonctions, peut-on lire dans le message posté sur Twitter. Il y a des rapports diffusés ces dernières semaines depuis l'Occident ainsi que Kiev sur une éventuelle invasion russe contre l'Ukraine. Dmitri Peskov, porte-parole du président russe, a qualifié l'escalade de tension de sans fondement et d'absurde. Enfin, le ministre des Affaires étrangères du Mali qualifie l'Iran de modèle pour le progrès scientifique. Le ministre malien des Affaires étrangères a qualifié l'Iran de modèle de progrès scientifique sous la pression de l'arrogance mondiale. Washington a toujours exprimé ses inquiétudes quant au progrès scientifique de l'Iran. Dans le dernier développement, à la suite du lancement de dispositifs de recherche dans l'espace par Téhéran, qui a marqué une autre étape majeure dans le progrès scientifique de l'Iran, un porte-parole du département d'État américain a déclaré « Les États-Unis restent préoccupés par le développement par l'Iran de lanceurs spatiaux ». Lors d'une rencontre avec le ministre iranien de la Science, de la Recherche et de la Technologie, Mohamed Ali Zolfigol, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a déclaré « La République islamique, avec ses avancées scientifiques et technologiques, est un modèle à suivre pour les pays qui veulent s'opposer à l'arrogance mondiale et à leurs sanctions oppressives. Le Mali a été sanctionné par certains pays américains, européens et africains et nous sommes intéressés à utiliser l'expérience de l'Iran pour développer la science et la technologie », a-t-il déclaré. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Quels sont les scénarios possibles? Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche affirme que Washington est prêt à tout scénario sur l'Ukraine. Mais quels sont ces scénarios et quelles en seront les conséquences? À peine deux semaines auparavant, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a prétendu, comme d'habitude, que la Russie pourrait attaquer l'Ukraine à tout moment. Mais le lendemain, dans un revirement soudain, le porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré que cette attaque n'est plus imminente, mais nous ne savons pas quelle sera la décision finale de Moscou. Si Donald Trump était le président, on n'aurait pas douté que cette contradiction proviendrait du manque de coordination et des tensions internes de la Maison-Blanche et s'accompagnerait certainement de nouveaux limogeages et nominations. Mais l'équipe démocrate de Biden ne semble pas avoir beaucoup de désaccords sur l'Ukraine et c'est pourquoi nous estimons que les contradictions de l'administration Biden sont délibérées et intentionnelles. Par exemple, dimanche dernier, le conseiller à la sécurité de la Maison-Blanche, Jack Sullivan, a pris ses distances avec la position annoncée par John Psaki en disant « La Russie pourrait attaquer l'Ukraine à tout moment. » Il a également menacé que Washington ne transigerait pas sur ses principes de sécurité, dont l'adhésion des pays à l'OTAN, alors que les États-Unis sont prêts à tout scénario concernant l'Ukraine. Dès hier vendredi, tout porte à croire que le président américain Joe Biden aurait programmé la date du 16 février pour une prétendue attaque russe contre l'Ukraine, alors que les Européens sont sceptiques. Avec cette contradiction, il paraît que Washington cherche à mettre la Russie devant un dilemme, la guerre involontaire ou le dialogue. Un exemple clair de cette hypothèse et la déclaration du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui a dit que Moscou devrait choisir entre la confrontation et la négociation. Maintenant, compte tenu des efforts diplomatiques qui ont commencé, dont la visite du président turc à Kiev, la visite du président français en Russie et en Ukraine, et la décision de Biden de téléphoner à Poutine, la question qui se pose est de savoir pourquoi Washington cherche-t-il à revenir à la table des négociations, malgré les rumeurs de guerre qu'il a lancées. Une réponse convaincante est que Biden veut piéger Moscou dans une guerre non désirée pour le forcer à renoncer aux exigences de sécurité à la table des négociations. Ainsi, la sécurité de l'Ukraine et de l'Europe serait un outil de marchandage pour gagner des points aux rivales, mais quelles sont les positions que les États-Unis veulent persuader la Russie à y renoncer ? La Russie est mécontente du nombre de troupes et d'équipements de l'OTAN dans ses environs et s'oppose à l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance qui conduirait au déploiement de davantage de forces et d'équipements ennemis à ses frontières. Washington a déclaré qu'il pouvait négocier la possibilité de limiter les exercices conjoints ainsi que le déploiement de missiles dans la région, mais ne discute pas des restrictions sur le déploiement des troupes américaines ou leur distribution dans la région. En outre, il n'interfère pas dans la décision de l'Ukraine de demander son adhésion à l'OTAN, car chaque pays a le droit de décider de son propre cadre de sécurité. Face à toutes les contradictions de Washington, Moscou insiste sur une position « Nous ne préparons pas la guerre ». Si cela ne tenait qu'à nous, il n'y aurait pas de guerre, mais nous ne nous permettons pas que notre sécurité soit ignorée, avait déjà déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Étant donné que Moscou voulait également négocier dès le début, il est fort possible que la Russie et les États-Unis s'assoient à la table des négociations pour résoudre la crise ukrainienne. Mais la phrase que nous avons citée de Lavrov est un avertissement que si les pourparlers ne sont pas gagnant-gagnant, Moscou n'hésitera pas à cette guerre involontaire. Cette guerre qui est en quelque sorte imposée à Moscou et à Kiev par des conspirations américaines devrait conduire à la déclaration d'indépendance de la région du Donbass dans l'est de l'Ukraine. À partir de là, l'Occident entre en action et décide d'imposer des sanctions paralysantes à la Russie, mais en contrepartie, Moscou perturbera les exportations de gaz vers l'Europe. La Chine, quant à elle, pourrait adopter une position neutre sur le Donbass, mais elle ne refusera pas son aide économique à la Russie, qui fait également face à des menaces du retrait du réseau financier de SWIFT. En outre, le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, a averti que la résilience de la Russie aux sanctions est élevée. Une reconnaissance tacite que la guerre n'est pas rentable par l'Occident, en particulier pour l'Europe. Cette guerre involontaire ne se limitera pas à l'indépendance du Donbass, la coupure du gaz européen et l'imposition des sanctions contre la Russie. Dans la perspective la plus sombre, nous verrons le déploiement d'armes nucléaires américaines en Europe et en Asie-Pacifique. Et en retour, la Russie pourra blesser Washington en déployant ses missiles à Cuba. Le scénario d'une guerre est complexe, érosif, mais probable, et c'est peut-être pour cela que les acteurs impliqués ont peur de le faire.
Bonjour à toutes et à tous. À 2022, ces derniers jours, les États-Unis se sont livrés à des agissements suspects et provocateurs en Syrie, selon le service de renseignement extérieur russe. Les États-Unis prévoient d'inciter des cellules dormantes d'extrémistes et de terroristes en Syrie à attaquer les forces syriennes, les conseillers militaires iraniens et les militaires russes déployés dans ce pays. Agence de presse de l'opposition pro-occidentale syrienne, OrientNet, a déclaré dans un rapport publié il y a 2 mois que le gouvernement de Joe Biden avait l'intention de reconstruire l'opposition syrienne en 2022. Selon de nombreux analystes, les États-Unis auraient lancé leur 2e plan visant à perturber la sécurité en Syrie, et cela pour compenser leur défaite stratégique face à la Syrie et l'axe de la résistance. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition de débat, nous allons analyser en effet ce nouveau scénario, ce nouveau plan, le plan B des États-Unis en Syrie, au moment où justement les États-Unis, en effet, ont avancé de nouveaux prétextes pour maintenir leur présence militaire en Syrie, mais avec le véritable objectif de piller les ressources naturelles de ce pays, notamment le pétrole syrien. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Paris Maître Eli Hatem, juriste international et analyste politique. Et toujours depuis Paris, Madame Maïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales. Madame Idani, bonjour et merci infiniment d'être en ligne avec nous.
Bonjour à vous et merci de l'invitation. Bonjour à votre invité aussi, Maître Hatem.
Merci infiniment, Madame Idani. Madame Idani, alors, selon le service de renseignement extérieur russe, l'administration américaine entend prolonger sa présence militaire en Syrie pour empêcher la stabilisation de la situation sur place. À quel jeu aujourd'hui joue l'administration Biden, Madame Midani, en Syrie?
Bon, je crois que de toute façon, c'est un fait. Les États-Unis renouvellent leur offensive et leur agression contre la Syrie. On a vu effectivement dans les déclarations de Biden, donc il dit de toute façon on va continuer en fait de manière avec soi-disant la lutte contre les terroristes en Syrie. C'est la raison pour laquelle aussi ils ont réactivé Daesh. Ce n'est un secret pour personne que c'est prétendus prisonniers, ces prisonniers qui étaient dans les prisons Sinaa de Qassad, dans la région nord-est de la Syrie, sous la surveillance de Qassad, qui sont eux-mêmes les alliés de privilégiés des États-Unis, qui se sont enfuis, et je mettrai des guillemets entre « enfui » autour du mot « enfui ». Donc, une évasion organisée, ils se sont répandus peut-être dans les régions à la fois syriennes et irakiennes. D'un autre côté, Biden se fait mousser d'avoir tué le responsable ou le dirigeant qui a remplacé al-Baghdadi, mais qui se trouvait comme par hasard dans la région qui est sous le contrôle turc, donc du côté de Idlib, dans le nord de Idlib, qui il l'a tué parce que Biden, on sait que les élections, elle approche, donc il avait besoin d'une victoire politique, donc il va se glorifier du fait d'avoir tué le chef de Daesh, comme d'ailleurs son prédécesseur s'était glorifié d'avoir tué al-Baghdadi, et puis le précédent Obama s'était glorifié d'avoir tué Ben Laden, mais en fait, bien sûr, tout ça, on n'en sait rien, ils ont été tués, recyclés, etc. Bon, de toute façon, ce sont des fusibles, comme on le sait, mais en même temps, ils organisent aussi une autre attaque, sur la Syrie, En même temps, il redirige les cellules terroristes de Daesh et al-Nusra, parce que je voudrais quand même faire savoir qu'il y a eu un accord qui a été conclu entre Qassad, FDS, en fait, qui sont les alliés de la Kurde, qu'on appelle Kurde, mais en fait, qui sont des étrangers à la Syrie, qui ont conclu un accord avec al-Nusra pour leur vendre le pétrole syrien qui est volé donc de l'Est, hein, et al-Nusra qui se trouve à l'Ouest, donc dans la région de Idlib, et qui est sous contrôle turc, hein, et des terroristes. Ils ont conclu donc un accord. Il y a le pétrole leur est vendu, ainsi que le blé qui est volé aux habitants et à l'ouest, et à la Syrie, bien sûr, donc du côté est. Donc il y a cet aspect. Il y a l'autre aspect qui est aussi les accords ou les relations qui reprennent entre la Turquie et Israël. Il y a la Turquie reçoit Herzog dans ces temps-ci. Il y a les agressions, tout ceci combiné ou conjugué avec les agressions répétées israéliennes sur la Syrie, sur le port de Latakia, à plusieurs reprises, où ils ont complètement détruit dans la zone des containers. Ils ont détruit des containers qui apportaient en fait du riz et des vivres à la Syrie. Il y a récemment, donc hier, avant-hier, il y a eu une agression israélienne nouvelle qui visait aussi la base de Hmeymim et qui a visé aussi le sud de Damas, le Al-Qiswa, en faisant aussi des morts et des blessés. Ces agressions répétées aussi sont aussi pour dire aux terroristes nous sommes là pour vous aider, nous sommes là. Donc ça montre clairement que Israël est très présent et continue aussi le plan, complète le plan américain.
Merci, Madame Milani.
Sous contrôle américain. Excusez-moi, dernier truc, oui. Quand même, il y a eu aussi, au-delà des agressions, il y a eu aussi toutes ces histoires de vol et des vivres et incendies des récoltes. Et on voit que l'objectif, c'est en volant toutes ces richesses du peuple syrien, c'est de l'affamer, de le mettre à genoux et puis accentuer les difficultés du gouvernement syrien pour redémarrer à la fois économiquement, politiquement et reprendre la souveraineté sur l'ensemble de son territoire.
Merci infiniment pour ces précisions, Madame Midani. Restez avec nous, s'il vous plaît. On va tout de suite rejoindre Maître Eli Hatem, juriste international et analyste politique. Maître Hatem, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci de votre invitation. Mes salutations à vous, à Madame Midani.
Alors, avec l'avertissement russe, avec des agressions répétées, comme l'a rappelé Madame Midani, d'Israël contre le territoire syrien, avec cette décision américaine de prolonger en effet sa présence militaire en Syrie, avec ce vol des richesses du peuple syrien, à quoi on va assister dans les prochains jours, voire prochaines semaines, Maître Hatem?
Vous savez, la politique et la stratégie américaine, c'est la stratégie de divide et imperare, c'est-à-dire divise pour mieux régner. Et mieux encore, comme vous l'avez tout à l'heure souligné dans la présentation donc, de cette émission, c'est déstabiliser l'ensemble des pays de la région. Et je ne pense pas que cette stratégie va changer du jour au lendemain. Les États-Unis veulent rester toujours présents dans la région, en particulier en Syrie. Aujourd'hui, ils le font comme ils l'ont fait préalablement. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont eu recours à ces groupes extrémistes pour déstabiliser. Il faut rappeler que la stratégie américaine est fondée ces deux principes. Il y a tout d'abord une politique officielle suivie d'une diplomatie officielle qui prône certains principes, mais il y a une action parallèle, cachée, dissimulée, qui est celle qui est faite par les services secrets et qui travaille par procuration, qui utilise d'autres forces présentes ou bien qui mettent, si vous voulez, de l'huile sur le feu pour transformer une situation par un conflit entre plusieurs groupes. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en Irak quand les Américains ont créé cette tension entre les deux communautés sunnites et chiites en renforçant au départ les chiites pour que les sunnites se sentent brimés par la majorité chiite, et c'est ce qui a déclenché, créé l'organisation de ce qu'on appelle l'État islamique ou bien Daesh, qui, il faut le rappeler d'ailleurs, et cette transmission, cette exportation de Daesh en Syrie était au vu des troupes américaines qui étaient sur place, qui contrôlaient la région. Et d'ailleurs, c'est la même, si vous voulez, stratégie qui est utilisée, comme Mme Midani l'a tout à l'heure souligné, avec cette, entre guillemets, fausse évasion, de la part donc de ces groupes islamiques ou islamistes ou bien terroristes qui sont donc les troupes de Daesh. Donc l'objectif, l'avenir est toujours la même chose, malheureusement. C'est continuer à déstabiliser, à affaiblir tous les pays de la région au profit des intérêts américains et de leur allié principal dans la région, qui est Israël, qui, il faut le dire, manipule ou bien a la prépondérance par rapport aux autres lobbies qui téléguident la politique étrangère américaine. L'intérêt donc des États-Unis, c'est de sauvegarder sa position au Moyen-Orient, affaiblir la Syrie. Là, ils sont en conflit avec la Russie en Ukraine et donc ils ne s'en cachent pas. Ils sont en lutte contre la Russie et l'effort de la Russie de mettre un terme à la déstabilisation donc de la région. Aujourd'hui, les Israéliens et leurs liens avec la Turquie, ce n'est plus un secret de polichinelle. Quand je l'ai dit à plusieurs reprises que Erdogan et Israël accomplissent en fait le même projet politique, on souriait, on ne le croyait pas, on pensait qu'il y avait un conflit toujours et que le président Erdogan n'est pas du tout avec Israël, ce qui est complètement faux parce que la Turquie est toujours soutenue par les États-Unis. Nous l'avons vu quand la Turquie mettait en cause la sécurité dans l'est de la Méditerranée. Donc aujourd'hui, il y a également une volonté de s'accaparer des richesses naturelles de la Syrie, d'affaiblir le rôle de la Russie avec un projet de la création de nouveau de ces groupes islamistes tels que Daesh, et que d'ailleurs l'ancien président Donald Trump n'avait pas hésité lors de sa première campagne électorale à désigner l'administration de son prédécesseur, c'est-à-dire l'ancien président Obama, d'avoir été derrière la création de cette organisation dont M. Trump avait dit que sa co-fondatrice ou sa co-présidente n'est autre que cette corrompue de Hillary Clinton, je ferme les guillemets, c'est une expression utilisée par Donald Trump, et que d'ailleurs, Madame Hillary Clinton l'avait confirmé dans son ouvrage « Hard Choices », où elle avait parlé des efforts américains et de la stratégie politique américaine d'utiliser ou d'instrumentaliser la religion à des fins politiques pour déstabiliser le Proche et le Moyen-Orient et aboutir à ce nouvel ordre mondial, ce nouveau Moyen-Orient.
Merci pour ces éclairages, Maître Atem, restez avec nous. Madame Midani, donc les États-Unis poursuivent aujourd'hui une stratégie d'approche indirecte via l'instrumentalisation non seulement des groupes terroristes, mais aussi des forces démocratiques syriennes. Et d'autre part, la Syrie et l'axe de la résistance sont déterminés, bien sûr, à à nettoyer entièrement la Syrie des groupes terroristes et des mercenaires à la solde des États-Unis. Ceci étant dit, quelle sera la prochaine étape, Madame Midani, dans cette confrontation entre les États-Unis, leurs acolytes?
Écoutez, je crois aussi voir que les États-Unis ont aussi l'émir du Qatar, mm-hmm. en fait, et que cet émir, il y a deux jours, effectivement, les prétendues oppositions syriennes se sont réunies à Doha. Donc, il y a une volonté de réactiver ce qu'ils ont appelé les forces démocratiques, mais qui sont des traîtres à leur patrie, qui coopèrent avec Qatar et Israël, donc pour relancer les activités aussi en Syrie. Mais les activités et les protestations, etc., il faut savoir quand même que le peuple syrien endure une situation très très difficile du fait de l'embargo total contre la Syrie, difficulté au niveau, puisque notre pétrole est volé par les Américains, il y a une crise au niveau de l'ensemble des énergies, aussi bien en électricité qu'en fuel. Deuxièmement, il y a aussi une difficulté au niveau ce qui provoque aussi des difficultés au niveau alimentaire, au niveau de la chute de la livre syrienne, etc. Donc ça, c'est sur un point. De l'autre côté, ils activent effectivement cette... Et en même temps, quand même, il est important de voir que le point fort de l'État syrien, ce sont ces réconciliations qui empêchent, en fait, qui transforment toutes ces forces qui sont alliées à l'étranger et aux Américains et qui sont... ils les transforment en coquilles vides parce qu'avant, ils avaient la possibilité, ils ont réussi à dévoyer une grande quantité de personnes, du peuple, etc., qui n'avaient pas suffisamment de culture et qui pensaient peut-être aussi que c'était la révolution, entre guillemets. Et bien maintenant, au bout de 10 ans, ils se sont bien rendus compte aujourd'hui que le seul salut qu'ils ont, c'est de garder, de défendre leur patrie et puis de revenir dans le giron de l'État qui les respecte et qui permet d'avoir une certaine fierté
nationale. Merci, Madame Hélène.
Donc, dans ces réconciliations, il y a un nombre très, très important de personnes. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont rejoint ces réconciliations, ce qui fait rager les États-Unis et qui fait qu'ils ont envie, effectivement, ils se vengent de la Syrie là-dessus. Mais aussi, les liens stratégiques de la Syrie, aussi bien avec les différents pays de l'axe de la résistance, qui sont des liens qui se sont beaucoup renforcés pendant cette guerre et pendant cette agression contre la Syrie, les liens avec la Russie qui se sont aussi beaucoup améliorés, qui sont devenus stratégiques, mais aussi qui se sont renforcés sur l'ensemble des plans, des liens avec la Chine, avec l'Iran, bien sûr, l'Iran fait partie de l'axe, c'est même elle qui dirige l'axe de la résistance et des liens avec nos alliés sur le terrain. Mais surtout, il y a eu aussi des liens qui se sont renforcés avec la Chine, avec tout un tas de pays, ce qui fait que la Syrie reste quand même un noyau important de cet axe, je dirais, et sa pierre angulaire.
Merci infiniment. Une toute dernière question à Maître Atem, il nous reste 3 minutes. Vos pronostics, non seulement sur les développements sur le terrain en Syrie, mais aussi sur le plan politique et diplomatique, notamment ce que vient de souligner Mme Midani, ces liens stratégiques justement de la Syrie avec de nombreux pays, notamment alors les pays membres de l'axe de la résistance.
Oui, ce qu'il faut rappeler, vous savez, nous assistons aujourd'hui à une nouvelle bipolarisation. Autrement dit, à l'époque, il y avait les deux blocs, l'Est et l'Ouest. Le bloc de l'Ouest était appelé le monde libre et le bloc de l'Est était le monde totalitaire. Et aujourd'hui, nous assistons en fait à un inversement de la situation. C'est que l'ancien bloc, je dirais, qui était présidé par les États-Unis et qui était à l'époque le protecteur de ce monde libre, s'est érigé en un bloc, je dirais, ou une force qui est plutôt totalitariste et totalitaire, et qui est dirigé par les États-Unis. Et en revanche, nous assistons à l'émergence d'un nouveau monde libre où il y a une préservation, une volonté de préservation de la souveraineté donc, des États, des institutions étatiques, et puis surtout de la liberté donc, des gens s'opposer à la mondialisation. Et puis, avec cette soif de prôner le droit international public pour régir la situation politique internationale, ce que les États-Unis sont en train de violer toujours par ce système soit de sanctions, soit d'interventionnisme quand ils le veulent, contre les forces et contre les États qui ne sont pas alliés et soumis à eux, parce qu'il y a cette idée, cette stratégie de la soumission donc, des gens à ce gendarme du monde. Alors, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une confrontation, on la voit avec cette situation en Ukraine où les États-Unis sont en train de faire de la surenchère et en violant en fait leurs engagements contre la Russie, en utilisant l'OTAN. Et puis, c'est que j'ai l'impression que ce conflit entre les États-Unis et la Russie est en train donc de s'étendre. Et je pense que quand même, on voit cela sur le terrain en Syrie. Pourquoi ? Parce que c'est là où la Russie s'est affirmée de nouveau et s'est instituée, si vous voulez, à la tête de ce nouveau monde libre, où elle a permis, parce qu'elle a permis à l'État syrien de retrouver sa stabilité, retrouver en fait et protéger de nouveau ses institutions, ce qui a déplu en fait aux Américains. Et nous avons vu que derrière la Russie, maintenant, il y a ces nouvelles forces, ces nouvelles puissances qui sont l'espoir, je dirais, des pays qui sont en soif de liberté. Il y a l'Iran qui se joint à la Russie, il y a la Chine, et il y a d'autres pays. Et nous voyons que la France est hésitante. À un moment donné, le président Macron a critiqué l'OTAN en le traitant comme quoi c'est un homme malade. Et puis, d'autre part, la situation actuelle où le président Macron hésite entre la Russie et les États-Unis et cherche à jouer la médiation comme le faisait le général de Gaulle en jouant, si vous voulez,
Merci, Maître
entre
Hatem.
L'Est et l'Ouest.
Maître Eli Hatem, juriste international, analyste politique. Madame Maïssa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci, au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. À l'occasion du 43e anniversaire de la victoire de la révolution islamique, le ministre iranien des Affaires étrangères a dit que de l'un des objectifs de l'Iran consiste à élargir ses relations avec l'Afrique. L'Iran élargit ses relations équilibrées avec l'Afrique, l'Amérique latine et l'Europe, a déclaré Hossein Amir Abdollahian, ministre iranien des Affaires étrangères. La République islamique d'Iran est déterminée à développer ses relations équilibrées et bonnes avec les pays d'autres régions, notamment l'Afrique, l'Amérique latine et l'Europe, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian. de Hossein Amir Abdullahian a eu sa première réunion avec tous les ambassadeurs et chefs de mission de la République islamique d'Iran à l'étranger. Et la réunion qui s'est tenue par visioconférence en présence des adjoints et directeurs généraux du ministère des Affaires étrangères à l'occasion des festivités de la décade de l'aube, marquant le 43e anniversaire de la glorieuse victoire de la révolution islamique. Lors de cette réunion, après avoir entendu les points de vue d'un certain nombre d'ambassadeurs de la République islamique d'Iran postés à l'étranger, le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdullahian, lors d'un discours commémorant l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique et la mémoire du défunt père et fondateur de la République islamique, l'imam Khomeini, que sa demeure soit au paradis, et des martyrs de la révolution islamique, a présenté ses meilleurs vœux à l'occasion des jours bénis de la décade de l'aube. Il a ensuite brossé un tableau détaillé sur les dernières évolutions liées à la politique étrangère de l'Iran. Amir Abdullahian, se référant au plan évolutif du gouvernement démocratique et issu du peuple du président Raisi, a déclaré qu'une politique étrangère équilibrée, une politique dynamique, une interaction intelligente constitue les bases des politiques fixées par l'appareil diplomatique du pays dans ses relations avec d'autres pays du monde. Ces politiques sont axées sur les valeurs de l'axe de l'islam noble, des idéaux de la révolution et sont au service des intérêts de la grande nation iranienne. Il a également souligné à cette occasion qu'il est nécessaire que les chefs de représentation iranienne en mission diplomatique à l'étranger soient présents parmi la diaspora iranienne et qu'ils soient étroitement informés des problèmes des Iraniens résidant à l'étranger tout en envisageant des solutions. Amir Abdullahian a poursuivi, bien que nos voisins et la région asiatique soient parmi les priorités de la politique étrangère du pays, mais en même temps, la République islamique d'Iran est déterminée à étendre ses relations équilibrées et bonnes avec les pays d'autres régions, y compris l'Afrique, l'Amérique latine et l'Europe. Manifestation à Bamako pour demander le départ de Barkhane. Des centaines de personnes se sont rassemblées à la Tour d'Afrique dans le centre de la capitale malienne Bamako pour protester contre la présence de l'opération française Barkhane au Mali. Les manifestants scandaient « Adieu la France, vive la coopération Mali-Russie et vive la refondation de l'Afrique ». Selon le président du collectif pour la refondation du Mali, initiateur du rassemblement, Aboubakar Sidi Fomba, cette manifestation avait pour objectif de réclamer le départ de la force Barkhane du territoire national avec un plan de retrait immédiat. La force Barkhane n'a plus de statut juridique au Mali. Nous ne lui faisons plus confiance et on veut qu'elle quitte le territoire avec un plan de retrait immédiat, a déclaré Fomba, par ailleurs membre du Conseil national de la transition lors de la manifestation. Jimil Bitar, membre du mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques, a noté pour sa part que quand quelque chose ne marche pas, ce n'est pas la peine d'insister. Tout le monde a compris que l'échec de la France aujourd'hui dans le Sahel est visible. Cette politique néocolonialiste ne peut pas continuer. Les manifestants estiment que malgré la présence de plus de 5000 militaires français sur le terrain, la situation sécuritaire ne fait que de se dégrader. Aucun résultat satisfaisant de l'opération Barkhane militaire n'a été constaté, dit-il. Florence Parly, ministre française des armées, avait récemment déclaré que la France ne peut pas rester au Mali à n'importe quel prix au lendemain de la décision de Paris et de ses alliés de se donner 2 semaines pour décider de l'évolution de leur engagement militaire, en indiquant que Bamako multiplie les provocations. Pour sa part, le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement malien de transition, a accusé la France de chercher à diviser les Maliens, d'instrumentaliser les organisations sous-régionales et de conserver ses réflexes coloniaux. Les tensions entre Paris et Bamako sont montées d'un cran depuis la crise, depuis la prise du pouvoir au Mali par les militaires qui n'ont pas caché leur rapprochement de la Russie à travers notamment une coopération renforcée dans le domaine sécuritaire. Le communiqué 454 du ministère sahraoui de la Défense marque un tournant dans le second conflit armé qui oppose le Front Polisario au Maroc. Ce document dresse le bilan des opérations militaires menées par l'armée sahraoui entre le 1er et le 8 février contre des unités marocaines positionnées le long du mur de défense qui sépare la partie contrôlée par le Maroc des territoires aux mains du Polisario. Depuis la reprise du conflit le 13 novembre 2020, le département sahraoui de la Défense publie un bulletin quotidien des opérations. Le numéro 454 comporte les noms d'officiers, sous-officiers, soldats marocains qui ont péri lors d'une attaque. La liste comprend un colonel, un lieutenant-colonel, un lieutenant, un capitaine, un sergent-chef, un sergent, un adjudant, deux caporaux ainsi que trois soldats. Les autorités marocaines n'ont pas réagi à ce communiqué. Le communiqué précise que ces militaires faisaient partie du 43e bataillon d'infanterie de secteur stationné dans la zone d'El Mahbès. Contacté par Sputnik, un officier de l'armée sahraoui a donné des précisions sur en fait cette unité des forces armées royales. C'est une des unités de premier échelon. Son quartier général est situé à 6 km derrière le mur. Le BIS 43 occupe 6 positions fortifiées qui sont suivies d'un même nombre de positions d'alerte qui sont tenues par des pelotons renforcés. Le bataillon d'infanterie de secteur a sous sa responsabilité un front qui s'étend sur 25 km de long, précise l'officier sous couvert de l'anonymat. La Tunisie plaide pour un partenariat mondial participatif pour préserver les océans. La communauté internationale est appelée à accélérer la mise en place d'un partenariat international portant sur une démarche participative sous la bannière de l'ONU afin de préserver les mers et les océans, a souligné la chef du gouvernement tunisien Najla Bouden, chargée par le président Kais Saied de participer au sommet en fait qui se tient sur ce sujet dans la ville de Brest en France. Cité dans un communiqué publié vendredi par la présidence du gouvernement tunisien, Madame Bouden a souligné l'importance de la tenue de ce sommet qui offre une plateforme d'échange de savoir-faire sur les nombreux défis maritimes auxquels le monde est confronté dans une tentative de trouver des solutions efficaces aux problèmes en la matière. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.